je rentrerai pas dedans. Non, je rentrerai pas dedans. Non, je vais rester avec toi. Hein.
Bienvenue sur Cœur Noir Tripalium, l'émission de la CNT 42 sur Radio Audio. Promis, on passera pas de morceaux de Christophe. Pour le deuxième mois consécutif, cette émission est préparée depuis notre salon et non dans les studios de la station comme à l'accoutumée. Du coup, c'est beaucoup de relais d'informations, des lectures ou de diffusion de documents produits par d'autres personnes. On citera bien sûr les sources et on mettra aussi les liens avec le podcast sur le site de la CNT 42. Voilà, ça fait 2 mois qu'on est confinés, putain, 2 mois qu'on tient tant bien que mal enfermés chez nous, grâce à l'abnégation des travailleurs et des travailleuses essentielles, en gros celles et ceux qui nous permettent de manger, de boire et de nous soigner, même si malheureusement celles et ceux qui nous permettent de boire beaucoup sont toujours fermés, on attend la réouverture avec impatience. Le système de santé français exsangue tient bon uniquement parce que les infirmières, aides-soignants, soignantes, ASH, médecins, agents d'accueil, agents de nettoyage, laborantins, pharmaciennes, vacataires, intérimaires, titulaires, internes, en temps plein ou à temps partiel, acceptent de fournir un effort supplémentaire pour éviter une hécatombe encore plus grande. Bientôt, le gros de l'épidémie et le confinement seront derrière nous. Et nul doute que les dirigeants et les dirigeantes politiques de tous bords applaudiront les personnels soignants et les autres employés essentiels à grand renfort d'éloges qui rivaliseront de grandiloquence. Ok, mais tous ces gens qui ont tout donné, qui ont sacrifié leur santé et leur vie privée pour la population, qu'est-ce qu'on va faire pour elles et pour eux? Il va bien falloir qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent des vacances, qu'ils récupèrent leurs heures. Sans doute que bon nombre d'entre eux et d'entre elles devraient aussi se mettre en arrêt maladie quand le corps et ou la tête n'en pourra plus. Et alors de nouveau l'hôpital public se retrouvera en sous-effectif, débordé et dans des conditions de travail pour les salariés et de soins pour les patients indignes. On a peur du chômage ? Ben, on pourrait peut-être créer des postes dans les hôpitaux, les EHPAD et autres établissements de santé, qui signalent ce problème depuis toujours. Alors les capitalistes répondront comme à chaque fois « Mais tout ça, ça coûte de l'argent, c'est pas des emplois productifs, notre économie est déjà mise à mal par cette crise, il faut relancer la croissance par la consommation et la production de richesses !» Alors on va essayer de garder notre calme et de répondre patiemment. Tout d'abord, et puisque ces gens ne comprennent que la logique marchande, si on s'en tient à un point de vue strictement financier, qu'avons-nous, qu'avez-vous à gagner avec un peuple mal soigné? Vous avez vous-même fini par comprendre que des salariés bien considérés étaient plus productifs et donc plus rentables. Alors vous devriez tout faire pour que le système de soins soit une priorité absolue, qui ne doit souffrir d'aucun manque humain et matériel. C'est ce qu'on appelle un investissement sur le long terme. Aussi, accessoirement, vous avez pu constater que la maladie n'épargne personne, et vous et votre famille aurez aussi, un jour ou l'autre, besoin d'être soignés. J'espère pour vous que ce jour-là, vous serez pris en charge par des personnels lucides, reposés, compétents, et pas par des gens qui apprennent encore le métier et qui viennent de se taper 30 heures non-stop. D'autre part, cet effort qu'on demande au peuple, pourquoi on ne le demande pas avant tout à ceux qui possèdent le plus? Les banques, les actionnaires, le MEDEF, on leur a demandé quoi comme effort? À quoi servent les milliards d'euros qu'ils ont de côté? L'expression Air France a perdu X millions d'euros depuis le début de cette crise m'énerve particulièrement. C'est pas des sous qu'ils ont perdus, mais des sous qu'ils n'ont pas gagnés. Nuance. Ils peuvent donc s'en passer. Les banques ont promis, je cite, d'épauler les TPE et les PME en reportant leurs échéances. Quelle magnanimité et quel altruisme! Mais tout leur argent qui dort et qui fait des petits via la spéculation boursière et l'optimisation fiscale, pourquoi on les oblige pas à le réinjecter dans l'économie réelle? Et puis, ils ne font que reporter ces échéances. Ils n'imaginent même pas les annuler. Voilà, faut pas se laisser endormir par le discours alarmiste disant que l'économie française va très très mal, qu'on va tous être au chômage, qu'on n'aura plus d'argent, et que si on veut payer son loyer et sa bouffe, faudra peut-être bosser plus dur et plus longtemps. Pardon, faudra pas peut-être bosser plus dur et plus longtemps, faudra être prêt à bosser plus dur et plus longtemps. Personne n'est jamais mort de manque d'argent. Si la France ne paye plus, on n'éradiquera pas ses habitants. Des solutions plus pérennes existent. C'est quand même assez incroyable de voir avec quelle rapidité et quelle facilité on débloque 7 milliards d'euros pour Air France, une entreprise dont les salariés sont régulièrement en grève pour diverses revendications, particulièrement les salaires, mais aussi pour leurs conditions de travail et leurs heures de travail. Une entreprise qui fait forcément partie des plus polluantes du fait même de son activité, alors qu'on refuse depuis des années les quelques millions nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux publics. C'est là qu'on voit un très bon exemple du deux poids, deux mesures. Un autre exemple, ce qui est en train de se passer avec les salariés de la grande distribution. Là, je vais m'appuyer sur un article de franceinfo.fr, donc pas spécialement un média de gauche, hein, du 19 avril dernier. Le 20 mars, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a lancé un appel aux entreprises privées qui exercent une activité essentielle à la nation pour leur demander une prime de 1000 euros défiscalisée pour récompenser les salariés qui travaillent pendant la crise sanitaire. Auchan a fait partie des premiers à répondre à cet appel en s'engageant à verser une prime forfaitaire de 1000 euros à 65 000 collaborateurs et collaboratrices pour saluer leur exceptionnel engagement. Un mois plus tard, adieu la prime forfaitaire. Aux dernières nouvelles, elle sera finalement calculée en fonction du temps de travail effectif sur une période définie. Alors, le délégué syndical FO de Auchan dit, je cite, « Les salariés se projetaient déjà avec une prime de 1000 euros, quel que soit leur temps de travail effectif. » Et là, c'est la douche froide, puisque ce sera proratisé au temps de travail de leur contrat, quoi. Quelque part, il y a une frustration qui naît à travers de cette nouvelle annonce. À la direction d'Auchan, on affirme que le sujet n'est pas encore tranché, comme partout ailleurs dans la grande distribution. L'attente commence à poser beaucoup de problèmes parmi les salariés, parce qu'ils savent plus s'ils vont pouvoir avoir cette prime dans leur intégralité ou partiellement. Ça, c'est la déléguée syndicale de FO à Casino qui dit qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent aussi. Par exemple, que les personnels qui travaillent de nuit sur la mise en rayon, ils n'auront pas la prime parce qu'ils ne sont pas exposés aux clients, alors qu'ils manipulent des produits qui ont été touchés par les clients pendant la journée. Donc, c'est tout à fait légitime qu'ils touchent cette prime. Chez Leclerc, la confusion règne aussi. Les salariés des entrepôts et des bases logistiques ont la certitude de recevoir une prime, mais pas ceux des magasins franchisés. Ce sera au bon vouloir du directeur. Il y a une salariée de Leclerc qui dit « On travaille tous pour la même enseigne, pourquoi favoriser des plateformes logistiques et non des caissières, des vendeurs à la coupe ? Pourquoi faire une sélection comme ça de telle ou telle catégorie et pas d'une autre ?» En tout cas, la seule certitude aujourd'hui, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune prime qui a été versée aux salariés de la grande distribution. Bref, pour nous, pour la CNT et pour notre petite section locale, la lutte continue et promet d'être longue et âpre dans les mois à venir. En tout cas, nous, sortir masqués et gantés, ça nous dérange pas du tout. Et depuis chez nous, on continue quand même d'essayer de faire des actions. Pendant ce mois d'avril, on a mis en place une compile de soutien au collectif des occupants et des occupantes de la Bourse. Donc c'est un collectif qui s'est monté il y a un an, tout pile. Rappelez-vous, il y avait eu des expulsions de squats à Saint-Étienne qui avaient mené des gens, la plupart sans papier, en difficulté de logement, à occuper divers bâtiments de la ville, notamment pendant un temps la Bourse du Travail, là où on a nos locaux, comme tous les autres syndicats de Saint-Étienne. Suite à cette occupation, un collectif s'était monté, un collectif citoyen, hein, d'où le nom les occupants et les occupantes de la Bourse, pour accompagner ces personnes dans leur relogement. Un an plus tard, pas de solution pérenne de trouver pour toutes ces personnes. Le collectif existe toujours, des militants et des militantes se bagarrent toujours au quotidien pour essayer de loger des personnes dans des conditions à peu près décentes. J'aime autant vous dire que en ces temps de confinement, c'est pas forcément le cas. Et donc nous, à la CNT 42, on a voulu essayer d'apporter un petit peu notre petite pierre à cet édifice en mettant en ligne une compile à 1 euro minimum, dont tous les bénéfices seront reversés à ce collectif. Alors l'idée, elle n'a pas émergé de nous-mêmes. On a pompé sur la CNT 33, la CNT Gironde, qui a également participé à une compile qui s'appelle The Ghost Town Initiative. Alors c'est une compile où il y a beaucoup plus d'artistes que sur la nôtre et qui viennent de toute la France. Et eux aussi, hein, c'est pour l'aide au logement. Vous pouvez la trouver sur Bandcamp, cette compile à 1€ minimum, pareil. La nôtre, elle s'appelle Une quarantaine de groupes. Et oui, on a fait un jeu de mots de ouf. Et figurez-vous qu'on a réuni 40 groupes au total. Alors, c'est un peu un best-of Saint-Etienne, hein, puisqu'il y a quand même la majorité des groupes présents sur cette compilation qui vient de notre ville. Ça permet quand même de voir aussi à quel point une ville comme Saint-Etienne est riche d'artistes de tout horizon musical, mais qui sont quand même prêts à s'engager pour ce genre de cause. Il y a vraiment un large panel de styles musicaux. Mais en tout cas, tout le monde a répondu présent. Mais il y a aussi des groupes d'ailleurs, hein, il y a des groupes espagnols, un groupe roumain, un groupe brésilien, des groupes suédois qui sont sur cette compile. Une quarantaine de groupes, non. Donc c'est le titre de la compile, disponible sur Bandcamp à partir d'€1, mais après il n'y a pas de limite de prix, hein. Si vous voulez donner 100€, vous pouvez. Ce soir, lors de cette émission, on va donc passer exclusivement des titres issus de cette compilation. Le premier, c'est le groupe Tisiphone, qui à la base sont de Lyon, mais je crois qu'ils ont déménagé. Le morceau s'appelle Bully.
Thank you.
Voilà, c'était Tisiphone, donc Bully, à retrouver sur la compile une quarantaine de groupes disponibles sur le site bandcamp.com. Tous les bénéfices sont reversés au collectif des occupants et des occupantes de la bourse. Il y a une autre action de solidarité qui s'est mise en place à Saint-Étienne récemment pendant cette période de confinement. Là aussi, pour venir en aide aux personnes pour lesquelles cette période de confinement est le plus difficile, les personnes les plus vulnérables et qui possèdent le moins. Voilà, tout simplement, c'est les brigades de solidarité. Et pour en savoir plus sur cette initiative, on va en discuter avec Valentine, ici présente. Alors, Valentine, est-ce que tu peux tout simplement commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est les brigades de solidarité dans le principe ?
Ouais, salut. Déjà pour commencer, on va dire que c'est les brigades de solidarité, c'est les jeunes communistes et le comité Antifa de Saint-Étienne qui l'ont créé pour venir justement en aide aux gens qui sont dans le besoin, comme tu disais. du coup, le principe, c'est que il y a des points de collecte assez régulièrement dans tout Saint-Étienne. On collecte surtout de la bouffe pas périssable, de la farine, des pâtes, des conserves. On récupère aussi des produits d'entretien, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, du shampoing, du dentifrice, du gel douche. Ensuite, à la fin de la journée, on stocke tout. Le lendemain, on désinfecte. Ça veut dire qu'on on passe des lingettes désinfectantes, on met du produit désinfectant sur les boîtes de conserve, sur les papiers emballage et tout ça. Et ensuite, on trie tout, on dispatche dans les endroits où il y a besoin, genre les squats. Il y a aussi la maison solidaire, il y a aussi les EHPAD, il y a le secours populaire, je crois. Enfin, voilà. Et c'est tous des gens qui font appel à nous, qui demandent. Il y a aussi des familles qui nous contactent en disant « Ben, moi, j'ai rien. S'il vous plaît, venez m'aider et on va les voir. »
Est-ce que n'importe qui peut participer à ces brigades de solidarité ou alors il faut être membre des organisations que tu as citées ?
Non, n'importe qui peut y aller. Il faut le lien est sur Facebook surtout. Ça s'appelle « Brigade de solidarité Saint-Étienne ». Vous allez sur le groupe, vous demandez à rejoindre le groupe. On risque de vous envoyer un lien sur lequel il faut mettre vos coordonnées. Comme ça, on vous contacte par téléphone. Voilà.
Et comment vous faites pour respecter les mesures de sécurité sanitaire quand vous faites ce que tu as dit, les collectes, le nettoyage des denrées?
Alors, pour les collectes, on est 4 ou 5 à collecter, à commencer à nettoyer un petit peu. Dans l'espace, souvent ça se passe au pied de biche. Donc, les gens respectent un mètre de distance quand ils sont en dehors du pied de biche. Un par un, on rentre à l'intérieur, pose les sacs devant la porte. Nous, on les récupère, on les stocke. Et le lendemain, on recommence. Pareil, on est 4 ou 5, pas plus nombreux. Nous, on a des masques et des gants. Et du gel hydroalcoolique pour pouvoir se protéger nous protéger nous et protéger aussi les autres pour pas qu'on transmette le virus. Et puis on fait attention de pas se frotter les uns les autres, de pas s'embrasser, de respecter les gestes barrières comme on dit.
Et sur l'attestation, on met quoi ?
Attends.
Sur la fameuse attestation dérogatoire que sinon on n'a pas le droit de sortir.
Du coup, sur l'attestation, moi, j'avais mis déplacement pour motif familial ou pour assistance aux personnes vulnérables, parce que du coup, c'est de l'assistance à personnes vulnérables indirectement. Mais les camarades me disent que participation à des missions d'intérêt général sur la demande de l'autorité administrative, donc la toute dernière case, ça marche aussi, parce que c'est une association qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin. Après... À Saint-Étienne, contrôle pas trop. Alors, non, c'est pas vrai. Prenez bien votre attestation, on sait jamais.
À titre personnel, qu'est-ce que tu penses du fait que il y ait des brigades de solidarité citoyenne qui se mettent en place pour venir en aide à ces personnes-là et que les pouvoirs publics, eux, comptent sur vous, en fait, et vous laissent faire cette mission-là?
Mais c'est dégueulasse. On devrait pas exister. Ça devrait être inné que les gens puissent avoir accès à manger, enfin avoir accès à la base sans qu'ils aient besoin de nous. Enfin, c'est inadmissible qu'on fasse appel à des gens, qu'on fasse appel à des dons, qu'on demande de la thune et de la bouffe pour des gens qui galèrent, quoi. Ça devrait pas exister, les gens, ils devraient pas galérer.
Et vous avez... Tu sais combien vous avez... Enfin, c'est difficile à dire combien, mais quelle a été la participation et ensuite les dons, à combien de... Je sais pas combien de sacs vous avez récolté et combien vous en avez donné.
Alors,
est-ce que t'as les chiffres en fait à donner un peu?
J'ai pas vraiment de chiffres. Je sais que moi je suis pas l'instigatrice de tout ça. Je suis juste une actrice, donc je suis pas vraiment au courant de tout. Ce que je sais, c'est qu'on est vraiment super nombreux à être investis là-dedans, parce que moi j'ai envoyé mes coordonnées en disant je suis super dispo, contactez-moi. Et ils m'ont pas trop contacté, c'est moi qui suis allée gratter en disant vous m'avez oublié, et ils m'ont répondu en disant non mais on a trop de monde en fait, donc on va faire chacun son tour.
Ouais, mais là tu parles pour le bénévolat, mais moi je te parle pour les collectes, la collecte en elle-même, ce qui a été récolté quoi.
Eh ben il y a beaucoup de dons. Après ouais voilà, c'est assez compliqué de dire combien de sacs de farine et combien de kilos de pâtes on a récolté. Moi ce que j'ai nettoyé l'autre fois, il y avait quand même pas mal de matos, genre, on en a eu pour 4 heures. On était 4 ou 5, et c'était chouette de voir tout ça, de voir toute cette bouffe, même si ça part vite, quoi, parce que on fournit les squats, on fournit la maison solidaire. Ils sont nombreux, il y a des enfants, il y a des gens qui ont très faim, il y a peut-être des femmes enceintes.
Donc tout ce que vous récoltez, ça part, quoi.
Carrément.
Il n'y a pas de surplus.
Non.
Il y aurait besoin de plus.
Il y a toujours besoin de plus.
Ok.
Parce que surtout la bouffe, quoi, tu sais, on mange tous les jours.
Et la prochaine collecte, c'est quand alors?
Du coup, la prochaine collecte, c'est mardi 28 avril. Il n'y a pas de lieu de rendez-vous. Je suppose que c'est le pied de biche, mais restez connectés sur Facebook pour savoir où c'est. J'ai aussi oublié de préciser qu'on recherche aussi des machines à coudre, du tissu pour fabriquer des masques. Si vous avez des masques, bien sûr, on prend carrément. Et merci.
J'avais entendu parler de matériel informatique aussi, non?
Ouais, carrément, des tablettes, des ordi, des téléphones, parce qu'il y a aussi des gens qui ont... des jeunes qui vont à l'école, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à leurs devoirs, en fait, et qui risquent de foirer leur année juste parce qu'ils n'ont pas eu accès à la technologie, et ça fait chier, quoi, qu'ils ratent une année pour ça.
Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà, la transition est toute trouvée. Je vais lire maintenant un communiqué de la CNT Éduc 42 contre les injonctions, la solidarité. L'annonce de la réouverture des écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai témoigne, comme nous en avons pris l'habitude, de la communication à l'emporte-pièce du président de la République. Non seulement celle-ci répond d'abord à la logique économique et productiviste, mais elle ne tient aucun compte de la situation sur le terrain et n'a été d'aucune manière préparée ni discutée avec les principales concernées. Je communique, vous trouvez le moyen de donner réalité à mes délires jupitériens. La CNT Éducation 42 a bien conscience de la situation intenable dans laquelle la fermeture des établissements scolaires a plongé de trop nombreuses familles et par conséquent le caractère hypocrite de la fameuse continuité pédagogique chère à Blanquer. Logement trop petit ou insalubre, manque de moyens de communication numérique, difficulté à faire la classe à des fratries parfois nombreuses, arrêt des cantines et de nombreux moyens de solidarité, harcèlement des forces répressives, isolement, perte de revenus notamment pour les plus précaires, le confinement a viré à la galère pour les plus pauvres, les plus fragiles, les plus isolés, souvent des femmes. Nous n'oublions pas non plus que c'est le capitalisme, les politiques d'exclusion et le massacre ou la privatisation de tout ce qui ressemble à un service public, qu'il soit de santé ou non, qui est à l'origine de cette crise. On l'a vu avec Trump, Boris Johnson, ainsi qu'en Suède et dans les centres de rétention administrative et les prisons, le néolibéralisme n'a que faire de ces gens-là et préférerait tabler sur quelques centaines de milliers de morts d'inutiles entre guillemets, de bouffeurs de pension entre guillemets, et de malades et permettre à l'économie de repartir de plus belle, allégée de ses poids morts entre guillemets bien sûr. C'est là une logique que l'on a vue à l'œuvre tout au long des 19e et 20e siècles. Nous ne verserons jamais assez de sang à leurs yeux. Quant au sinistre Blanquer, il voit dans cette crise une nouvelle occasion de mettre en œuvre une conception néolibérale de l'éducation, technophile et excluante. Nos vies valent plus que leurs profits. En l'absence de concertation et de réflexion préalable, et dans l'attente de consignes floues et contradictoires, nous appelons les parents d'élèves, les personnels municipaux et de l'éducation nationale à se réunir en assemblée générale, dans les établissements et écoles, dans le respect de la sécurité de chacun et de chacune. C'est à nous de fixer les conditions de la reprise, à nous de décider de quand et comment nous reprendrons la classe. En attendant, nous exigeons que soient rendues publiques les études et projections qui ont motivé cette date du 11 mai afin de vérifier par nous-mêmes son bien fondé. Nous exigeons masques, tests, gants, ainsi que l'aménagement des locaux afin de maintenir une distance nécessaire entre élèves et le lavement des mains régulier. Nous exigeons des groupes restreints et une liberté totale quant à l'organisation des enseignements. Nous appelons élèves, parents et personnels à faire jouer leur droit de retrait et ou de grève dans le cas où les conditions de sûreté sanitaire ne seraient pas réunies. Nous exigeons l'annulation du bac et de tous les examens afin que les élèves et leurs professeurs puissent se concentrer sur l'essentiel, à savoir débattre et décider du monde et de l'éducation qu'ils et elles veulent dès aujourd'hui. On va écouter un autre morceau de la compile Une quarantaine de groupes. On va écouter la formation brésilienne Dead or Alive. Le morceau s'appelle Monster. I'm not a monster. I'm just a shadow of your face. Just a part of you that hides.
I'm not a monster, you made me. Hate or love, you're so tricky. I'm not a monster, you made me.
Et voilà, c'était Dead or Alive Monster sur Cœur Noir Tripalium, l'émission de la CNT 42 sur Radio Audio. Alors, au moment où vous écoutez peut-être cette émission sur le site de Radio Audio, on est normalement le dimanche 3 mai. Donc le 1er mai, c'était avant-hier. Mais au moment où moi j'enregistre cette émission, on est encore au mois d'avril. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer exactement le 1er mai. Je ne sais pas, je ne vais pas parler au nom des autres organisations syndicales et de ce qu'elles vont, de ce qu'elles auront organisé. Ce que je peux dire, c'est que nous, à la CNT 42, on a déposé une demande de manifestation, de rassemblement plutôt, en préfecture. Pourquoi on a déposé cette demande? Vous allez dire, impossible de manifester, avec les conditions sanitaires qu'on nous impose, nous on est parti du constat que dans d'autres pays ça se faisait très bien. On a vu les manifestations en Israël où les gens étaient séparés de 2 mètres et étaient masqués. On a vu des manifestations au Liban où les gens sortaient en voiture, ou également en Pologne où là aussi les gens respectaient tout simplement ces conditions. Donc on a fait une demande de rassemblement pour se retrouver place de l'hôtel de ville, en demandant à ce que la préfecture de police trace au sol des démarcations pour que chaque personne présente puisse être séparée d'un mètre cinquante. On a demandé à ce que tout le monde vienne masqué et ganté. On a précisé qu'on resterait sur place, on ne défilerait pas. Donc on a simplement fait en sorte de pouvoir occuper l'espace public comme lors de n'importe quel 1er mai, que nous, citoyens et citoyennes, militants et militantes, syndicalistes ou non, travailleurs, travailleuses ou privés d'emploi, on puisse revendiquer tout ce qu'on a à dire, et il y en a un paquet en ce moment, sur le retrait de la réforme de retraite, sur le retrait de l'assurance chômage, sur la situation dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements de santé, etc., etc., pour qu'on puisse, voilà, faire entendre notre voix sur l'espace public et pas seulement à notre balcon ou à nos fenêtres, parce que franchement, quelle portée ça a, quoi, ou sur les réseaux sociaux, parce que là encore, ça exclut énormément de gens, tout en prenant bien soin de pas se transmettre le virus. C'est possible, surtout en plein air, beaucoup moins que dans des espaces confinés, alors que dans 10 jours, à compter du 1er mai, on sera censé reprendre le boulot dans des usines où on sait très bien que les conditions sanitaires seront pas respectées. Voilà notre démarche. On sait pas forcément au moment où j'enregistre cette émission si cette demande sera prise en compte, sera acceptée ou non. Si elle est acceptée, tant mieux, ça voudra dire que le 1er mai on aura pu occuper la place de l'hôtel de ville pendant une petite heure et crier nos revendications haut et fort. Si c'est refusé, eh ben, on pourra tout de suite considérer ça comme un refus politique, puisque nous, on avait pris bien soin d'appliquer toutes les mesures nécessaires à ce qu'on puisse sortir en toute sécurité, sans propager l'épidémie. Je veux dire, du 1er mai au 11 mai, la différence au niveau de la propagation de l'épidémie ne sera pas immense. si on pense que 10 jours plus tard, les gens pourront retourner à l'école et au boulot, alors je pense qu'on peut se réunir à quelques personnes sur une place à 2 mètres d'écart, en toute sécurité, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir aussi apprendre à vivre avec et nous laisser un peu plus libres de nos mouvements. Voilà, on fera un compte-rendu de ce 1er mai, de ce qu'on a fait ou pas, plus tard en podcast sur le site de la CNT. En attendant, je vais quand même lire le tract intersyndical signé par la CNT, donc rédigé en intersyndical, où là on est tous et toutes globalement d'accord sur ce qui est dit. C'est un tract très complet que vous pourrez retrouver, on espère, dans la presse, dans les journaux, sur les réseaux sociaux et bien sûr sur les sites des différentes organisations syndicales. Je lis. Un 1er mai confiné mais revendicatif. À la veille de la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, nos organisations syndicales s'expriment ensemble de la continuité de nos luttes communes pour défendre le code du travail, les retraites, les salaires, la sécurité sociale, le service public, les libertés et l'emploi. Sans les salariés mal payés, précarisés, méprisés, pas de lutte contre le virus. Nous saluons l'engagement des salariés qui répondent présents et présentes pour satisfaire les besoins de première nécessité, quels et ils soient dans le secteur de la santé, du médico-social, dans l'aide à domicile, la collecte et le traitement des déchets, les grandes surfaces alimentaires, les transports, la poste, l'éducation, les industries et toutes les activités essentielles et vitales dans ce contexte de pandémie mondiale. Ce sont principalement les salariés les plus mal payés, à temps partiel et précaires, majoritairement des femmes, qui se trouvent bien souvent en première ligne, parfois au péril de leur santé et de leur sécurité. Hôpitaux, EHPAD, il ne suffit pas de rendre hommage, il faut répondre aux revendications. En poursuivant la politique de suppression de lits de ses prédécesseurs, moins 150 000 lits depuis 1980, en refusant la réouverture des usines qui permettaient la production de masques et de bouteilles d'oxygène, en n'organisant pas la production de tests et de médicaments, en maintenant tous les plans mortifères pour le système de soins publics, comme l'a révélé la déclaration de directeur de l'ARS Grand Est, ce gouvernement est pleinement responsable de la situation. Ce ne sont pas de félicitations de convenance dont ont besoin les soignants, soignantes et personnels des hôpitaux. Il faut tout de suite des masques, des tests de dépistage, des équipements de protection individuelle partout. Il faut tout de suite du matériel, des postes, des augmentations de salaire. C'est ce que demandaient et demandent toujours les soignants-soignantes qui étaient mobilisés depuis plus d'un an et que le gouvernement a réprimé. Dans les EHPAD, la revendication du ratio personnel résident 1 pour 1, pourtant inscrite dans le plan solidarité grand âge 2007-2012, n'a pas non plus été appliquée. La scandaleuse recommandation du ministère de la Santé pour empêcher la prise en charge des résidents des EHPAD à l'hôpital doit être retirée. La guerre, entre guillemets, au droit aux salariés ? Nous dénonçons l'instauration d'un état d'urgence sanitaire liberticide qui permet toutes les dérogations. Pour les patrons des grands groupes, tout va bien. 45 milliards d'euros d'argent frais, compensation de toutes les pertes, 300 milliards de garanties de prêts, contrôle réduit à presque rien. Pour les salariés, c'est la double peine, salaire réduit, télétravail qui augmente le temps de travail, détruit la vie familiale, congés et RTT amputés, durée hebdomadaire en hausse. Pour beaucoup, c'est aussi le chantage à l'emploi ou les licenciements. Le salaire doit être maintenu à 100%, les licenciements interdits. Ce n'est pas aux salariés de payer la note. Les mensonges ont été nombreux. Sur les primes, où sont les 1000 euros promis et pour qui ? Sur les masques, inutiles, puis indispensables, on attend toujours leur livraison à tous et toutes. Maintenant sur les tests, qui seraient, comme les masques au début, presque inutiles. Les chantages aussi ont été nombreux pour forcer les salariés à revenir sur leur lieu de travail au mépris de leur santé et de leur sécurité. Nous demandons toujours la définition urgente du périmètre des activités essentielles, entre guillemets, et l'arrêt immédiat de tout ce qui ne l'est pas, tout comme le respect du droit de retrait lorsque la ou le salarié, comme c'est bien souvent le cas, considère que sa santé est menacée. Selon le président du MEDEF, il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise. Ça, c'était une citation entre guillemets. Ce n'est pas aux salariés de payer la note d'une crise économique qui était là bien avant l'épidémie. Nos organisations syndicales n'accepteront pas d'être associées à l'organisation de la reprise telle que voulue par le MEDEF et le gouvernement. Le jour d'après, au contraire, doit être, entre autres, le moment d'une réflexion profonde sur les enjeux et les choix politiques concernant la santé, la justice sociale, environnementale, pour tous les citoyens et les citoyennes. L'école ne doit pas être la garderie du MEDEF. La réouverture des écoles et établissements scolaires a été annoncée pour le 11 mai. Il s'agit là d'abord de permettre le redémarrage de l'économie. Or, comme l'ont déclaré de nombreux scientifiques, cette mesure entraînerait le redémarrage de l'épidémie. Nous soutenons toutes celles et tous ceux qui partout sont en ce moment en train de se battre pour défendre leurs droits. Le droit de retrait ne doit pas être contesté. Des préavis de grève ont été déposés dans de nombreux secteurs. Ensemble, nous préparons le jour d'après avec un même mot d'ordre, plus jamais ça. Je me suis permis de raccourcir un peu le tract qui est déjà bien assez long à écouter comme ça à la radio. Comme je l'ai dit, il sera disponible en intégralité sur différents sites et différents médias. On va écouter maintenant un camarade qui lance un appel à soutien pour un lieu qu'on aime bien à Radio Dio et à la CNT. Puis on enchaînera directement avec un morceau de Pervers et Truand, lui aussi disponible sur notre compil Une quarantaine de groupes, qui est justement sur ce thème-là, sur ce lieu-là, Pervers et Truand, groupe illustre de Saint-Étienne.
Nous avons souvent parlé de la gueule noire dans notre émission. Celle-ci lance un appel à soutien. Le coronavirus n'aura pas la peau de la gueule noire. Donc nous allons vous lire leur texte. La gueule noire est un espace autogéré, ouvert depuis septembre 2011 à Saint-Étienne, qui regroupe un ensemble d'individus et de collectifs réunis autour de valeurs anarchistes. Nous refusons toute forme d'oppression, qu'elle soit politique, raciale, sexuelle, économique ou religieuse. Dans ce lieu autogéré, social et solidaire, où l'on expérimente des alternatives au système du pouvoir et de l'argent, se côtoient des personnes engagées dans des luttes contre le patriarcat, le fascisme, le racisme, l'exploitation animale, le capitalisme, le nucléaire. Fonctionnant en autogestion, nous ne cherchons ni subvention, ni chef, ni parti. Nous agissons selon un mode d'organisation horizontal et la coopération d'individus libres et autonomes. Le lieu accueille des restos vegan, des ateliers, une bibliothèque, une zone de gratuité, des concerts, du théâtre, des discussions, des réunions, etc. Alors pourquoi encore du soutien ? Comme l'ensemble des établissements non essentiels, nous sommes contraintes par les mesures gouvernementales de fermer les portes de la gueule noire pour une durée indéterminée. Depuis 9 ans, le lieu est financé uniquement par les adhésions et ou les dons des membres, par les soirées qui y sont organisées et par les concerts trimestriels de soutien à la gueule noire. Certaines membres font des virements mensuels automatiques de petites sommes qui permettent d'avoir une base permanente. Un arrêt de l'activité de plusieurs semaines, voire mois, va vider complètement nos ressources, même si heureusement nous sommes en capacité de tenir quelque temps et assurer le paiement des loyers, des fluides et autres factures, environ 850 euros par mois. Pour cela, nous devons puiser dans l'argent servant par exemple à la maintenance du matériel de sonorisation et il ne restera plus rien ensuite. Lieu indépendant et autogéré, nous ne bénéficierons d'aucune mesure d'aide quelconque lors de la sortie de crise. Voilà, il faudra bien repartir et s'enfiler, ça peut être très compliqué, voire fatal. Nous sommes conscientes que beaucoup d'entre vous luttent aussi pour boucler leur fin de mois dans ce contexte et nous ne demandons à personne de se saigner pour ça. Alors ce que vous pouvez faire pour nous aider, un virement mensuel automatique de la somme voulue sur le compte de la gueule noire, un virement ponctuel ou... Il y a une cagnotte qui a été mise en ligne sur le pot commun. Voilà, toutes les coordonnées sont sur le site de lagueulenoire.org, les coordonnées du compte et les coordonnées de la cagnotte en ligne. Un grand merci sincère pour votre soutien. On espère que vous allez bien et on a hâte de pouvoir toutes et toutes se reposer à la gueule noire, se retrouver pour fêter le retour à la liberté. Signé La Gueule Noire.
À savoir, je suis genre de noir. de smicards à le voir dans les mouvements d'extrême droite. Aucune solution adéquate. Faut qu'exploite à ceux qui bloquent la vie des fans. Leurs actes, leurs principes, restent racistes, capitalistes. J'ai pêché noir, smicard par masochiste. Statut pas choisi, imposé par des blancs défriqués. Alors seuls des équipes armés de micros, de stylos, de flingues, des mythos, mégalos, des dingues. En tout genre, des cultifs qui se distinguent, qui s'efforcent de monter dans leur garlin. De s'envoler avec ces élites autoracistes, autoprogrammes, autorité suprême. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Je m'appelle Black, appelle-toi White, on se situe dans le bac à l'émouvoir. Tu m'appelles raciste, appelle-toi autoraciste. Et reste pas là, nous contempler la réciprocité. Ce qui fait la différence, franche de baise, on baise ensemble. Que la cohérence, ça me ressemble et me semble d'intérêt commun. La justice, tu propose des réparations. Tu veux que ça se passe bien. Flag ton propos, ton défend des valeurs communes. Les faits, tu ne comptes pas pour défendre les rapports de pouvoir à la une. Oublie sur la queue à la soirée, à deux mètres, barbois, ça tu pètes le pote du pote de mon pote. Je rapporte avec toi, stop, j'ai vu ma tranche dans la côte. Même ce télescope, comme puis j'en fais de la compote. Là-bas, un prix, focalisé sur mon équilibre. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon. Croisé comme une à la gueule noire, en commun des valeurs libertaires. Une pensée aux phrases pleines de charbon, force et courage au bout de la mine du crayon.
C'était Pervers et Truand sur Cœur Noir Tripalium. L'autre actualité absolument révoltante pendant cette période de confinement, ce sont les violences policières, l'impunité policière, la surveillance citoyenne et la fameuse application Stop Covid qui va être mise en place. Alors là, je vais lire un article publié le 20 avril 2020 par Paris Lutte Info, enfin des extraits d'un article. Parce qu'au nom de la lutte contre le Covid-19, la police française a déjà tué 5 personnes et fait plus de 10 blessés graves. Dès les premiers jours du confinement, de nombreuses vidéos ont montré des violences policières. Les militants des quartiers populaires avaient alors averti du danger que représentaient des rues vides, donnant de fait carte blanche aux flics en l'absence de témoins. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir ces dires confirmés avec un premier tir de LBD sur une fillette de 5 ans. Devant le peu de réactions, les flics s'en sont donnés à corps joie et en à peine 8 jours, c'est donc déjà 5 personnes qui sont mortes. Toutes ces histoires ont un point commun, il n'y a aucun témoin, forcément il n'y a personne dans la rue. En dehors des flics impliqués dans la mort de ces personnes, il n'y a personne qui peut témoigner, quoi. Donc la grande majorité des affaires en lien avec la police se terminent par un non-lieu. Sans preuve ni témoin extérieur, il y a très peu de chances que quiconque soit un jour condamné pour ces morts ou s'excuse. Donc, n'ayant pas d'autre version que celle des flics, les médias, eux aussi, se contentent encore plus que d'habitude de copier-coller leurs déclarations, comme si le procès était déjà bouclé, quoi. Les journalistes, ils prennent pas le temps d'interroger, d'aller vérifier sur place. Aucun média a pris la peine de mettre en lien ces affaires, quoi. Alors, ils ont fait, Paris Lutte Info a fait une petite liste, beaucoup trop longue, malheureusement, de ce qui s'est passé... jusqu'au 20 avril. Hein. Depuis, il s'est sûrement passé plein d'autres choses. Le 8 avril, à Béziers, Mohamed, 33 ans, est mort au commissariat de Béziers vers 23h30 après son interpellation par la police pour non-respect du couvre-feu. Ce n'est pas une des armes à feu dont est équipée la police municipale de Béziers qui a tué un homme, seulement une nouvelle fois une technique d'immobilisation entre guillemets. Le 10 avril, à Cambrai, des flics veulent arrêter deux hommes qui, pris de panique car sans autorisation de sortie, prennent la fuite. Les flics les prennent en chasse. En pleine ligne droite, la voiture part en tonneau au milieu de la route et les deux hommes meurent. Le 10 avril, à Angoulême, même scénario, Boris, 28 ans, est intercepté par les flics, sûrement lui aussi sans autorisation de sortie. Il prend la fuite, stoppe sa voiture au milieu d'un pont et saute dans l'eau. Le 15 avril, à Rouen, un homme âgé de 60 ans est décédé en garde à vue au commissariat de police de Rouen. Donc le sexagénaire a été placé en garde à vue la veille en fin de journée pour une conduite sous l'emprise de l'alcool. Vers 5h, alors qu'il était extrait de sa cellule pour être entendu, il fait un malaise. Malgré les tentatives de réanimation, il décède. Le 15 avril aussi, à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, un jeune de 25 ans est aperçu par les flics à cheval dans le parc de la Courneuve. Les flics à cheval, hein. Qui est fermé, le parc, pour cause de confinement. Il s'approche de lui et, selon eux, le voit tenir un couteau. Le jeune aurait alors attaqué un cheval, suite à quoi les flics prennent la fuite et préviennent leur pote à vélo qui l'encercle un peu plus loin. Selon eux, toujours, puisqu'on n'a que leur version, l'individu se serait jeté sur eux et les flics n'auraient eu d'autre choix que de lui tirer 5 balles, dont 3 en pleine tête. Voilà, donc beaucoup de morts très suspectes qui posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En plus de ces morts, l'association de lutte contre les violences policières a déjà enregistré 7 plaintes contre les flics. N'attendons donc pas une hypothétique condamnation judiciaire pour le dire. Affirmons-le, la police tue, a tué et tuera tant qu'elle existera. Les flics ont tué 5 hommes en 8 jours et en ont mutilé ou blessé plus de 10. La police tue et mutile. Pensez à toutes les victimes et à leurs familles. C'était donc des extraits d'un article publié sur le site Paris Lutte Info. On va maintenant diffuser un extrait d'une vidéo mise en ligne par Mediapart, librement disponible sur YouTube. La vidéo s'appelle Usul, violence policière, quand l'État ne tient plus ses flics.
Confinement ou pas, les histoires se ressemblent. Celle de Ramatoulaye, celle du jeune homme blessé ce week-end à Villeneuve-la-Garenne, celle d'Adama Traoré ou de Liu Xiaoyao. Elle raconte toute l'impunité des policiers, et c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. Ce week-end, des quartiers se sont embrasés en plein confinement. Ces quartiers, marqués par le chômage, la misère et le mal logement, vivent durement cette épidémie du point de vue économique et du point de vue sanitaire. Mais ce qui nourrit la colère ici et là, c'est la violence des contrôles de police. Rien de surprenant, rien de neuf, mais c'est particulièrement insupportable en cette période où tout le monde a affaire à la police, où tout le monde peut être contrôlé, et où le contraste entre le traitement des uns et le traitement des autres est criant. Il y a des vidéos qui le montrent.
Ce conducteur n'a pas pu imprimer l'attestation.
Si possible. Essayer d'avoir le bon formalisme.
La légèreté avec laquelle certains habitants de Paris et des grandes villes continuent de braver le confinement devient presque une insulte pour une partie de la population, celle qui vit depuis des années avec au ventre la peur du contrôle qui tourne mal. Beaucoup de Français ont découvert les abus de la police à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, ou un peu avant avec le mouvement contre la loi El Khomri, période Nuit Debout. Avec les tweets de David Dufresne ou les vidéos de Gaspard Glantz, ils ont découvert que la police mutilait, frappait, tuait parfois, qu'elle était couverte par sa hiérarchie, par les politiques, et que la machine était bien rodée.
Violence policière.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des Gilets jaunes.
Mais dans les quartiers populaires, on connaissait cette machine depuis longtemps. C'est le sujet du documentaire « À nos corps défendants » sorti il y a peu, est disponible sur YouTube. Ce docu de Yann Bay du collectif Désarmons-les revient avec beaucoup de témoignages sur les stratégies des flics pour échapper à toute sanction. La méthode est toujours la même et vous allez voir qu'elle a été appliquée à la lettre ce week-end à Villeneuve-la-Garenne. Rappelons les faits. Samedi 18 avril au soir, un motard de 30 ans a percuté la portière d'une voiture de police banalisée. Les policiers assurent qu'ils allaient descendre procéder à un contrôle et que le motard a foncé sur le chef de bord avant de s'encastrer de lui-même dans la portière et d'être projeté quelques mètres plus loin sur un poteau. Les habitants du quartier ont du mal à croire que la portière n'ait pas été ouverte intentionnellement par le commissaire au dernier moment pour provoquer l'accident. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, la police va livrer toujours une version qui l'arrange. Les agents sont couverts par la hiérarchie et la préfecture fait un communiqué. Ensuite, elle charge la victime. S'il y a un casier judiciaire, c'est l'occasion de rappeler les condamnations, de jeter le discrédit sur sa parole. Sur le plateau d'Hanouna, par exemple, ces deux flics vont faire ça, et ils vont le faire devant Amal Bentounsi, qui vient parler ici de son frère Amin, abattu par un flic d'une balle dans le dos.
Votre frère, est-ce qu'on peut recontextualiser les choses? Je sais pas pourquoi il courait, enfin, je suis désolé. Hein, je...
Alors, est-ce que je sais, votre frère, c'était un fugitif, c'est ça?
Recherché.
Peu importe.
Bah oui, peu importe, d'autant plus que là, la justice a tranché. Elle a condamné à 5 ans de prison avec sursis le policier reconnu coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais la justice, Assa Traoré, l'attend encore pour son frère Adama.
On se bat face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont permis. Mais on continue à se battre face à cette machine de guerre qui va criminaliser mon frère. Bon, les gendarmes ne seront plus des criminels, mais vont devenir les victimes. Mon frère va devenir le coupable. Alors qu'il est mort.
Car les policiers portent plainte systématiquement contre leurs victimes. À Villeneuve-la-Garenne, ce sera pour rodéo urbain. Ça peut être pour outrage et rébellion, c'est même encore mieux. Très souvent, les violences policières sont dissimulées derrière des outrages et rébellions. Si une personne blessée porte plainte alors qu'il n'y a pas de preuve, les policiers se retournent contre elle en parlant d'outrage et de rébellion. La victime des violences devient accusée. Dans un tribunal, c'est la parole des policiers contre la parole d'un jeune qui ne fait pas beaucoup le poids. Expliquait en 2017 Didier Fassin, directeur de l'école des hautes études en sciences sociales. Les policiers vont jusqu'à demander des réparations, des dommages et intérêts que vont toucher les flics et qui vont pénaliser économiquement les victimes et leurs familles, particulièrement celles qui se battent pour obtenir la justice et la vérité. Il faut aussi intimider et pourquoi pas dissuader les témoins. À Villeneuve-la-Garenne, là aussi, une enquête a été ouverte pour outrage et insultes envers les forces de l'ordre. Cette enquête vise les gens qui, présents sur place, ont demandé des comptes à la police.
Ah, les gars, vous abusez.
Et ouais, appelez.
Sur la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Bavure policière, Majel, c'est là.
L'État va couvrir la police, payer pour les avocats, le parquet va suivre et la machine policière et judiciaire va transformer les victimes et leurs familles en adversaires. Ce système, on le connaît depuis longtemps, il ne pourrait pas se perpétuer sans la complicité des politiques qui ont eux-mêmes identifié le problème mais ne font rien pour le régler.
Voilà, la vidéo dure comme ça un peu plus de 10 minutes et explique bien le système judiciaire, l'impunité de la police et ce dont on parlait tout à l'heure avec l'article de Paris Lutte Info. Pour alléger un petit peu l'atmosphère, on va passer un dernier morceau de la compile, un groupe des copains de Nantes qui s'appelait Cray et le morceau s'appelle Le Cri.
Calme-moi, putain calme-moi, écoute le spleen, vois le gris en vue et toi.
Calme-toi, écoute le spleen, vois le cri en bleu.
on se quitte là-dessus sur Connor Tripalium, l'émission de la CNT 42 sur Radio Audio. On va rappeler simplement les contacts de la CNT, puisque comme vous l'avez compris, on est toujours présent, actif et active autant que faire se peut pendant ce confinement jusqu'à la fin. On sait que le confinement, l'état d'urgence, ça va durer encore après le 11 mai, qu'il y aura toujours des restrictions, que ça continuera à être compliqué de se regrouper, qu'on pourra évidemment pas manifester, hein. On se doute bien que les rassemblements politiques de contestation seront les derniers à être réautorisés, encore sûrement longtemps après les festivals. Donc c'est important de maintenir du lien, que ce soit par courrier postal. Vous pouvez nous écrire salle 15 bis, Bourse du Travail, cours Victor Hugo, 42 028, Saint-Etienne, CEDEX 1. Par téléphone, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Je vous assure qu'on les écoute, les messages. 04 77 25 78 04. Vous pouvez écrire à la CNT Femmes Libres Saint-Etienne, CNT _, c'est le tiré du 8, Femmes au pluriel, Libres au pluriel, tiré du 8, 42@riseup.net. Vous pouvez appeler la CNT Femmes Libres au 06 21 70 60 67. Vous pouvez nous écrire par email à cnt42@cnt-6f.org. Vous pouvez écrire à la CNT Femmes Libres, cnt-8 femmes au pluriel, libre au pluriel, tiré du 842@riseup.net. Et vous pouvez visiter notre site internet cnt-f.org, qui est très complet. Il y a tous les communiqués, ceux que j'ai lus, d'autres encore, de nombreux autres, les infos, les émissions, etc., etc., les podcasts des émissions. Donc vous retrouverez tout ça et d'autres contacts encore sur l'Union des syndicats CNT de la Loire en ligne. Et puis vous avez depuis peu le groupe CNT Jeunes de Saint-Etienne qui a fait sa page Facebook. Donc vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche CNT Jeunes 42 et vous trouverez leur page. Là aussi, avec toutes les infos sur leurs actions, les brigades de solidarité et les contacts. Cette émission, elle était dédiée à notre camarade Johan Isambert, militant CNT du 93, qui nous a quittés il y a peu. Une grosse pensée à ses camarades militants et militantes et sa famille, bien sûr. La lutte continue.
C'était Corner Tripalium sur Radio Audio. Ciao, bye bye.
Non, mais je...